Dis à la personne à côté de toi, c'est un message pour toi. Oh, c'est un message pour toi. En fait, la vie chrétienne pourrait se résumer tout simplement à un nom, et vous le savez. C'est le nom de Jésus. Et plus j'y pensais, alors je préparais ce message, je me dis, peu importe ce qu'on vit, peu importe ce qu'on traverse, peu importe ce que nous sommes, si tu es malade, tu as besoin de la révélation de Jésus. Si tu as un problème financier, tu as besoin de la révélation de Jésus. Si tu as un problème relationnel, de manque de pardon, tu as besoin de la révélation de Jésus. Si tu as chuté, tu es loin et tu crois que Dieu t'a abandonné et que Dieu ne veut plus de toi, tu as besoin de la révélation de Jésus. Si tu te sens sec, sèche, complètement à l'intérieur de toi, tu as besoin de la révélation de Jésus. Si tu crois que tu es arrivé et qu'en dehors de toi, il n'y a plus personne, que tu es merveilleux, merveilleuse et que c'est fini, tu es au ciel, tu as besoin de la révélation de Jésus-Christ. Peu importe où tu en es, tu as besoin de délivrance, tu as besoin de la révélation de Jésus-Christ. Et plus je pense à Jésus, Jésus, c'est la réponse. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh, calme-toi, ne pense pas que ce message, c'est pour celui ou celle qui est peut-être nouveau dans la foi et qui ne connaît pas Jésus. Même si tu es un chrétien de longue date, tu as besoin de la révélation de Jésus. Même si tu es ministère, tu es pasteur, bishop, archibishop, prophète des nations, et même des nations qui n'existent pas, tu as besoin de la révélation de Jésus-Christ. On a besoin de grandir dans la révélation de Jésus-Christ. Et on va avoir ce thème cet après-midi, et alors qu'on est dans cette série, je choisis Jésus, parce que trop souvent, dans notre marche chrétienne, ou bien même lorsque on va s'approcher de Dieu et qu'on va chercher à mieux connaître le Seigneur, nos regards sont détournés de l'essentiel. Nos regards sont détournés du... J'ai besoin de votre attention. Nos regards sont détournés de tellement de choses. Et ça perd le focus sur Jésus. Et parfois, on a tellement de besoins. En fin de compte, on cherche Jésus pour satisfaire nos besoins. Parfois, on avance dans la marche chrétienne parce qu'on va utiliser Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On ne va pas servir Jésus, mais on va se servir de Jésus. Et c'est tellement triste. Bien sûr que Dieu répond, bien sûr que Dieu agit, bien sûr que Dieu veut pourvoir à nos besoins. Mais combien de fois on cherche Jésus parce qu'on est dans la galère? Est-ce que si tu n'es pas dans la galère, tu peux encore crier à Dieu et tu peux encore te prosterner et l'adorer? Quand tu as la révélation de Jésus, peu importe tes saisons, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, tu as envie de chercher Jésus. Et je suis là cet après-midi juste pour te dire que, en fait, Jésus, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout autre nom. Et Jésus, en fait, compte. Même si tu n'as pas de soucis, même si tu n'as pas de problème, combien même tu n'aurais rien de tout ça, si tu n'as pas une soif de Jésus, c'est que tu as besoin de la révélation de Jésus. Tu as besoin, et chacun de nous, en fait, on a besoin d'une révélation plus grande de Jésus-Christ. Une vie sans Jésus, c'est la mort éternelle. On peut être vivant, mais une vie sans Jésus, c'est la mort éternelle. C'est ça la bonne nouvelle, en fait. OK? Vous n'êtes pas convaincus? Une vie sans Jésus, c'est la mort éternelle. Mais le piège, c'est d'avoir accepté un jour Jésus et de vivre une vie sans Jésus. Écoutez-moi bien. Le piège, c'est de prier. Le piège, c'est d'avoir chanté. Le piège, c'est d'avoir dit, tu es digne, tu es roi, tu es Seigneur. Mais de ne plus avoir une vision sur Jésus. L'église est devenue un lieu social. La preuve, si on ne m'aime pas, je pars de l'église. Pour certains, j'abandonne même la foi. Parce que nos cœurs ne sont pas tournés, ne sont pas convertis à Jésus. Nos cœurs se sont convertis à une idée, à une philosophie, à un club social. J'ai besoin de la révélation de Jésus. Je ne dis pas que l'église ne doit pas être un lieu d'amour. Je ne dis pas que l'église ne doit pas être un lieu de relation. Je ne dis pas que l'église ne doit pas être un lieu où je me développe. Mais l'église, ce n'est pas un lieu de développement personnel. Ce n'est pas un lieu où je m'éclate en tant que tel. Mais c'est un lieu où je contemple sa gloire. Après, bien sûr, ça jaillit dans ma vie et dans mon quotidien. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. Et c'est terrible d'avoir une vie même de prière sans relation avec le Seigneur Jésus. En fait, ça devient juste un rituel. C'est un rituel. C'est bien d'avoir une discipline. Mais la question que je me pose et que je vous pose, où en êtes-vous et où en sommes-nous avec la personne de Jésus-Christ? Normalement, dans toute relation, si on côtoie une personne, si on fréquente une personne, si ça fait 5 ans que je fréquente une personne, si ça fait 10 ans que je fréquente une personne, normalement, dans une relation normale, je dois connaître un peu plus la personne au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans. La relation doit grandir. Mais comment ça se fait que je suis capable de dire « Je me suis converti, j'ai donné ma vie au Seigneur il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans. » Mais ma compréhension de qui Jésus est toujours au même niveau. Ce qui me faisait peur il y a 5 ans me fait toujours peur. Ce qui m'angoissait il y a 5 ans m'angoisse toujours. Mes défis d'il y a 10 ans, ce sont encore mes défis d'aujourd'hui. Ma crainte d'il y a 2 ans, c'est encore ma crainte d'aujourd'hui. J'ai besoin d'une plus grande révélation de Jésus-Christ. Ne nous cachons pas derrière nos années de conversion. Ne nous cachons surtout pas derrière une étiquette religieuse. Ne nous cachons surtout pas derrière même la puissance du témoignage. Quand Dieu m'a touché, quand Jésus m'a touché, quand j'ai eu une rencontre, peu importe les expressions, peu importe la puissance de la rencontre. La question que je vous lance ce matin, cet après-midi, est-ce qu'on a grandi? Est-ce qu'on a progressé? Est-ce qu'on s'est développé? Parfois même, certains obéissent, mais sans avoir une révélation de Jésus, sans avoir une relation. Et ça devient tout simplement du légalisme. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Jésus a dit ça. Ok. Mais est-ce que ton cœur vibre? Est-ce que ton cœur est passionné? Est-ce que ton cœur boue encore? Est-ce qu'il y a encore une flamme? Je ne parle pas juste d'émotion, vous comprenez ce que j'ai? Je parle de ce truc-là au fond de ton cœur. Tu sais que tu es en relation, tu te sens en sécurité et tu fais surtout les choses par amour. Pas parce que tu as appris qu'il faut le faire. Tu ne pries pas et tu ne viens pas à la célébration juste parce qu'il faut le faire, mais parce qu'il y a quelque chose qui te fait lever. J'ai envie d'adorer, j'ai envie de, à un moment donné de me concentrer et d'offrir le meilleur de moi-même. Pas pour obtenir. Oh, et vous savez que dans ce lieu, on croit que Dieu agit. On a entendu un témoignage, Dieu agit sur les finances. Dieu agit. Mais si je n'avais pas besoin que Dieu agisse, est-ce que cet après-midi, je serais là? Juste parce que j'ai eu la révélation de la croix. Je vais vous choquer, mais je suis convaincu. Les églises sont remplies de gens qui ne sont pas réellement nés de nouveau. Et ma prédication ce soir, ce n'est pas pour remettre en question notre nouvelle naissance. Est-ce que j'ai vraiment... Ok. Mais pose-toi la question, juste. Où en es-tu avec Jésus? Tout est à propos de Jésus. Tout est à propos de Jésus. L'Église est à propos de Jésus. L'Église, c'est à propos de Jésus. L'Église, c'est à propos de Jésus. Le message, c'est à propos de Jésus. On se baptise pour Jésus. On s'engage pour Jésus. Et en fait, comme toute relation, je disais, chaque relation nécessite un développement, une croissance, un avancement, quelque chose qui est devenu, qui devient de plus en plus profond. Et le piège, c'est que lorsque on croit que être chrétien est un état, écoutez bien ceci, être chrétien, quand on commence à croire que être chrétien est un état, c'est là qu'on commence à s'éteindre. C'est pas un état, être chrétien. C'est pas un cachet que tu reçois. Être chrétien, c'est une relation. En fait, être chrétien, ça ne devrait même pas exister. C'est être disciple de Jésus. Quand tu es disciple, ça veut dire que tu suis quelqu'un. Tu suis Jésus-Christ. Et quand tu suis Jésus-Christ, automatiquement, tu grandis, tu avances et tu te développes. Alors, peu importe où tu en es, encore une fois, cet après-midi, c'est juste dire, OK, où j'en suis, je fais un état. Est-ce que je suis devenu un professionnel de la foi? Est-ce que je suis devenu un professionnel de la chrétienté? Vous savez, c'est ces moments-là où ça nous est tous arrivé. Moi, le premier, je me mets à prier. Seigneur, je te bénis pour ce repas. Merci de le sanctifier par parce que le sang de l'agneau purifie et lave tout péché. Alors, sanctifie ce repas. Je te prie non, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et quand j'ai dit Amen, ça m'est arrivé plusieurs fois. Le Saint-Esprit me dit, mais est-ce que tu as réalisé ce que tu as dit? Ou tu as prié mécaniquement? On peut devenir professionnel, comprenez? Et le piège surtout, c'est quand tu as des années de conversion, tu ne te rends pas compte, tu es devenu professionnel. Tu sais prier. Tu sais même quand le pasteur va intervenir pour prêcher. Tu connais le moment où il va se lever. La vie chrétienne, c'est juste une relation. C'est juste une relation. Alors, je vous pose cette question. Est-ce que cet après-midi, on est capable juste de faire de manière honnête un point? Et si c'est la première fois que j'ai écouté l'Évangile? Et si c'était aujourd'hui que je pouvais à nouveau redécouvrir Jésus? Et si c'était aujourd'hui que je pouvais dire, OK, Seigneur, je mets un peu de côté ce que je sais, pas parce que c'est mauvais, mais je veux quelque chose de frais. Je veux quelque chose d'authentique. Je veux quelque chose de transparent. Je veux m'ouvrir à toi. Peut-être même pour certains, recommencer ma vie. Ne pas, que ce ne soit pas du faux, les jeunes vont dire. Ce ne soit pas du fake, vous comprenez? Ça ressemble, mais c'est du toc, la pacotille. Ça peut briller. Ça peut... Même s'appeler parfois pareil. Mais on va le trouver peut-être dans les marchés de 20 000. Ah, c'est sûr, une montre Rolex là-bas, une fois, j'étais tenté. Hein. Ça ne coûte pas cher. Hein. Ça s'appelle Rolex, mais est-ce que c'est Rolex? Est-ce que tu as payé le prix du Rolex? Est-ce que tu as payé le prix du renoncement? Jésus va dire, personne ne peut venir à moi s'il ne renonce à lui-même. Est-ce que tu as payé le prix du renoncement? De renoncer à ta vie pour suivre Jésus. Ou tu as accepté Rolex sans payer le prix. On t'a promis peut-être une vie de délivrance, une vie où, tu sais, où tout est rose parce que tu es chrétien. Mais c'est faux. Qui veut devenir encore chrétien? Ça vaut le coup. Apocalypse 1:1, vous allez voir pourquoi j'ai appelé ce message « Révélation de Jésus-Christ ». Apocalypse 1:1, « Révélation de Jésus-Christ », c'est le titre du message tiré du livre de Apocalypse chapitre 1, verset 1, « que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean ». Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Le terme révélation ici parle de dévoilement, de mise à nu. En fait, on lève le voile. C'est ça révélation. Je lève le voile. Parfois, je crois connaître Jésus, mais Jésus veut lever le voile pour qu'on puisse discerner une partie de sa personne, peut-être qu'on n'avait pas vu. C'est ça la révélation de Jésus. La révélation, c'est Jésus qui se montre. Et qui dit, voilà qui je suis. Tu as cru que j'étais un Seigneur qui voulait te condamner, mais je suis un Seigneur qui t'aime. Tu as cru que j'étais un Seigneur qui est venu pour se servir, mais je suis un Seigneur qui est venu pour servir. Tu as cru que je ne pouvais rien faire, mais je suis le chemin, la vérité et la vie. On va voir, il y a une dimension de Jésus. En fait, j'ai entendu clairement, c'est tout à l'heure, ta saison porte un nom. Merci, je suis beau. C'est ça qu'il a dit. Hein? Non, non. Chacun entend ce qu'on veut entendre. Hein? Parfois, on a une révélation de Jésus parce qu'on va entendre ça. Bon, bref. Ta saison porte le nom de la révélation de Jésus. Pense à ça. Ta saison porte le nom de la révélation de Jésus. Jésus veut se révéler dans une dimension. Quelqu'un est dans l'insécurité. Jésus veut se révéler comme celui qui te sécurise, peu importe ce que tu traverses. C'est intéressant parce que nous, on lit Apocalypse. Bon, certains, le mot Apocalypse, ça fait peur. Hein? Et ça, on a des images terribles. Révélation de Jésus-Christ, c'est à qui? C'est qui écrit ça? C'est un homme qui s'appelle Jean. Et vous savez, Jean est où à ce moment-là? Il est dans une île qui s'appelle Patmos, et il est dans cette île à cause de la persécution. En fait, littéralement, il est en prison, on l'a envoyé dans une île. Il est complètement sous, je crois, l'empereur Néron. Il y a une persécution énorme. Jean est envoyé là-bas. Il est envoyé dans cette île, et c'est là que Jésus se révèle à lui. Ta saison porte le nom de la révélation. Même au sein de l'affliction, même au sein de la douleur, même au sein de la persécution, même au sein je ne sais pas de quoi, Jésus choisit ce moment-là pour révéler le futur glorieux, pour révéler que peu importe ce qui va se passer, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ domine, et à la fin, comme disent certains, c'est nous qui gagnons. Quel puissant encouragement pour Jean! Alors qu'il est dans la douleur, alors qu'il est dans la souffrance, alors qu'il est dans la persécution, Jésus vient se révéler à lui. Nous, veulent vivre parfois des révélations. Il y en a qui veulent voir toujours des visions, mais sans passer par Apocalypse, sans passer par Patmos. Si quelqu'un te parle tout le temps de ses visions glorieuses, célestes, dis-lui, est-ce que tu as connu Patmos? Si tu n'as pas connu Patmos, tais-toi. Garde tes visions pour toi-même. Le livre de l'Apocalypse nous rappelle qu'il est possible de vivre une plus grande révélation de Jésus-Christ au sein de l'affliction. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une révélation de Jésus qui vient faire comme le mot que j'entendais, éruption. Jésus veut jaillir de ta vie. Le chemin dans lequel tu es, le lieu où tu te trouves, que ce soit Patmos, on va voir différents lieux, sur un chemin peut-être où tu as l'impression qu'on ne te voit pas. Jésus va faire éruption pour dire, je suis là. Et voilà la dimension que je veux que tu saisisses en ce moment même. Ce n'est pas la dimension forcément que toi peut-être que tu recherches, que tu attends. Il y en a qui veulent vivre des dimensions, peut-être de miracles, de surnaturels, et on croit à ces choses encore une fois de plus. Mais je crois vraiment, en ce moment même, alors qu'on entend des bruits de guerre, alors que le monde est dans l'agitation, ce qu'on a besoin, c'est juste Dieu de gloire. Tu es roi, tu es Seigneur. On ne se trompera jamais. Lorsque nos yeux sont en train de fixer et de contempler Jésus et de l'adorer. Et le livre de l'Apocalypse, c'est ça qui est extraordinaire. Il y a tellement des événements de partout, wow, des chars, des trucs de feu, des dragons. Mais il y a l'agneau de Dieu qui règne et qui est là, qui est glorieux. Et Jean arrive à voir le roi des rois, le seigneur des seigneurs, au milieu d'un film apocalyptique. Qu'est-ce que tu vois? En fait, quand on ne voit plus Jésus dans l'affliction, on a besoin d'une révélation de Jésus-Christ. C'est pour ça que Apocalypse commence par révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. Et même certains vont même lire l'Apocalypse en voulant décoder certaines choses. C'est bon. Et on perd la révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. L'Église est parfois devenue un lieu où on cherche son propre succès et non plus la révélation de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Marc 10, verset 46 nous dit ceci. Vous connaissez, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant avec, était assis au bord du chemin. Jésus est là et Bartimée est là, assis au bord du chemin. Et là, on sait que quelque chose va se passer. Jésus va se révéler, il va dire, fils David, aie pitié de moi. Il est au bord du chemin. J'ai pris ce texte, je suis toujours dans l'introduction. J'ai pris ce texte dans l'introduction pour vous dire que dans notre chemin, Jésus va passer régulièrement. Et je voyais plusieurs, et encore une fois, on lit ça, on a tellement, pour les plus anciens, on a pris ce texte pour des réunions d'évangélisation. Combien de chrétiens sont au bord du chemin et ont besoin de voir ce Jésus qui fait irruption. En fait, et j'espère que vous comprenez mon cœur. Et c'est ça le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est Jésus qui vient faire irruption dans ta vie. Ce n'est pas mystique quand on parle de révélation de Jésus-Christ. Déjà parce que je suis en train de libérer, déjà parce que je suis en train de proclamer la parole de Dieu, elle est venue, elle est faite chair, et c'est Jésus. Déjà dans les Écritures, quand je parle de ça, c'est Jésus qui vient dans ta réalité, qui dit, regarde-moi. Arrête de regarder ce qui est en train de te prendre. Vous savez, c'est ces moments-là où tu dors plus, tu ne fais que penser à ça. Tu es en adoration sur ce qui envahit tes pensées. Tu es en adoration sur ce qui te trouble. Tu es en adoration sur ce qui te hante. Mais Jésus vient, dit, t'inquiète, regarde à moi. Et je disais, vous savez, dans le monde chrétien, il y a toutes sortes de, comment je peux dire, de profils, je ne sais pas le mot que je sais, expression. Il y en a qui ont une expression, on voit tout le temps des combats spirituels. Vous connaissez, vous voyez ce que je dis? Ah, c'est dur, c'est le combat, ça, nanana, je suis attaqué, nanana. Toujours combat, toujours combat, toujours combat. Et en fait, on regarde tout le temps les combats. Et hier encore, je ne sais plus dans quel sens, on me pose cette question. Et je disais, mais en fait, c'est Jésus est Seigneur, quoi. Jésus est Seigneur. Et je disais à un couple, je disais, mais la différence entre le combat naturel et la vie chrétienne, que même quand tu es dans le combat, tes yeux ne sont pas sur l'ennemi. Dans cette guerre, quand tu veux atteindre l'ennemi, tu regardes l'ennemi, tu le vises. Quand tu deviens chrétien, tu regardes Jésus, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Aujourd'hui, regarde Jésus. Jésus, 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 Jésus. Si tu es chrétien, tu regardes Jésus. Si un message parle pas de Jésus, ce n'est pas un message chrétien. Tu peux entendre plein de préceptes, plein de conseils. S'il n'y a pas Jésus, c'est mort. Exactement. Si tu es dans le combat, tout le temps, et tu regardes plus le combat que Jésus, c'est pour ça d'où cette série, je choisis Jésus. Parce qu'il y a trop de chrétiens qui parlent plus du diable que de Jésus. Et il y a trop de chrétiens, et c'est pour ça que j'aime moins, en tout cas dans cette saison, c'est comme ça que Dieu me conduit, il y a trop de chants chrétiens qui parlent même plus de nous que de Jésus. Bénis-moi, remplis-moi, tout le temps en train de commander à Dieu. Fais-moi du bien. Mais il a fait ça à la croix. Et si on commençait juste à dire merci Jésus. Tu ne te tromperas jamais. ça va travailler. Mais je te mets au défi. Quelqu'un te parle tout le temps de ses problèmes. Bien sûr, il faut écouter, il faut être compatissant, il faut être empathique. Empathique, ça se dit ? L'expert en français, empathique. Ça se dit ? Ouais, ça se dit. Hein. Ça se dit. Je sais qu'avoir de l'empathie, mais ça n'est pas empathique, ça se dit. OK. Il faut manifester de l'empathie. Mais à un moment donné, dis à la personne, et Jésus dans tout ça. Comprenez ? Il faut qu'on se challenge les uns les autres. Jésus doit être adoré dans ma bouche. Si je parle plus des affaires qui me font du mal, si tu parles Jésus, tu rêves Jésus. Tu rêves Jésus. Parle de Laurent tout le temps, tu vas vous rêver Laurent. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris Laurent, parce que au moins, je n'ai pas de problème. C'est très rapide, j'ai fait la liste de membres. Je n'ai pas vu Laurent. Je me dis Laurent. Seigneur, ah, Dieu m'a parlé. J'aurais pu dire Fabien, et là, ah, Seigneur, la confirmation. Parle de Fabien, tu rêves Fabien. Je vous assure. Donc, je reviens à Jésus. Si tu veux avoir... Seigneur, ouvre-moi les yeux. Seigneur, je veux voir dans l'esprit. Parle Jésus. Rêve Jésus. Pense Jésus. Médite sur Jésus. Prie Jésus. Demande au Saint-Esprit. Regardez. Même le Saint-Esprit est venu. La Bible dit, Jésus lui va dire... Il ne parlera pas de lui-même. Il prendra les choses qui sont à moi et vous l'annoncera. Même le Saint-Esprit est venu là, sur cette terre, est venu habiter en moi pour rendre témoignage de Jésus. C'est ça sa mission. Pourquoi on a réduit le Saint-Esprit au prophétique, à être parfois mystique? Le Saint-Esprit est là pour te parler de Jésus. Les miracles sont des signes. Pourquoi? Pour pointer vers qui? L'Église? Non, Jésus. Édifions-nous les uns des autres. C'est de parler de Jésus. De rêver Jésus. De glorifier Jésus. Le piège, c'est de croire que l'adoration, c'est un chant juste le dimanche. Mais l'adoration, c'est un style de vie où c'est Jésus qui remplit mon cœur. Ce n'est plus les soucis, c'est Jésus qui remplit mon cœur. Et j'aime bien cette phrase. C'est puissant, que j'avais donné une fois. Ça va vous aider. C'est bon. C'est une phrase qui m'aide énormément. Nous sommes transformés dans ce que nous contemplons. Si tu contemples la peur, tu vas être transformé en peur. Je t'assure, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Tu veux ressembler à Jésus? Regarde Jésus, parle Jésus, mens Jésus, réfléchis Jésus, seulement Jésus. Tu arrêtes de regarder sur ce que tu n'arrives pas à faire. Bien sûr, il faut que tu changes, bien sûr, il faut que tu avances, bien sûr, il faut que ton caractère soit changé. Mais arrête de tout le temps regarder ce qui ne va pas. Médite juste Jésus, Jésus, Jésus. Si par l'esprit, vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez. C'est pas par la chair qu'on fait, c'est pas la lutte contre la chair, c'est par l'esprit. C'est par Jésus. OK? Alors, rapidement, deux points cet après-midi pour nous aider. Comment penser Jésus? Comment rêver Jésus? Comment être omnibulé par Jésus? Comment être des passionnés de Jésus? Ça ne vous fait pas bizarre de voir qu'il y a des gens qui sont capables de mourir pour une cause? N'ayons pas peur d'être remplis de Jésus. N'ayons pas peur d'être fanatique pour Jésus. Oui, oui, oui. Il faut qu'on retrouve notre position de chrétien engagé. On doit être des fous pour Jésus. Pas pour faire de la guerre, mais pour libérer l'amour. Et pour cela, je vous propose deux moyens que Jésus va utiliser. Le premier moyen, je vais citer, les textes vont défiler. Le premier moyen, vous connaissez, c'est les disciples d'Emmaüs. Rapidement, parce qu'ils ne connaissent pas, Jésus vient de mourir. Il y a deux disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Et ils sont en train de parler entre eux, dire, ah, on croyait que c'est lui qui allait faire. On croyait que, je pensais que depuis que j'étais chrétien, que les choses allaient changer, mais ma situation ne change pas. Je pensais que celui qui allait faire ceci, je pensais, il est là. Et en fait, sur ce chemin d'Emmaüs, Jésus va faire irruption. Alors là, pareil, je retourne vers le professeur de français. Je ne sais pas pourquoi il est professeur aujourd'hui, mais voilà. Il y a, chaque fois, j'ai des thèmes comme ça, voilà. Aujourd'hui, c'est la tête de français, voilà. C'est éruption ou irruption? Hein? Irruption. Depuis tout à l'heure, je dis irruption, personne ne me reprend. C'est irruption. Donc, Jésus qui fait irruption. C'est ça, hein? Ben oui, c'est ce que je dis. Irruption. Oh là 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 là. Oh là là là. Irruption. OK. Jésus fait irruption sur leur chemin. Le chemin d'Emmaüs, c'est le chemin d'incompréhension. Vous avez déjà passé ça? Hein, des chemins où je dis, mais Seigneur, pourtant, on a fait les choses à ta manière, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Non, ça ne vous est jamais arrivé. Vous aussi. Et sur ce chemin, Jésus fait irruption. Et à un moment donné, la Bible dit alors qu'ils vont rompre le pain. Alors, cherchez parce que là, il y a un doute. Là. Tess est en train, là, elle supplie la prédication. Donc, allez vérifier pour que Tess suive. C'est irruption, irruption. Ah. Hein? Irruption. Alors, irruption, c'est quoi? Ah, vous voyez que le petit Africain, là, c'était pas si clair. Hein? Bon, ceux qui sont sur Internet, c'est irruption. Alors. Les deux, alors, ça dépend ce qu'on veut dire. Si c'est un bouton qui sort, c'est éruption. Mais moi, je ne parle pas de bouton qui sort. Moi, c'est, je parle de quelque chose qui jaillit. C'est quoi? Voilà, donc c'est ça, éruption. Voilà, ok. Ok, pour moi, c'est l'image d'un volcan, ouais. Ok, c'est pas grave. Alors, ferme le sujet, ça sera un bon sujet de devoir. Vous revenez vers moi, ok? On va vérifier ça tout à l'heure. Comme quoi, hein, les certitudes. Vous allez voir le deuxième point. Les certitudes. Ok, avec moi. Vous êtes avec moi, hein? Ok. Sur ce chemin d'Emmaüs, donc Jésus jaillit. Jésus jaillit sur leur chemin et Jésus va se manifester, mais pourtant, ils ne le voient pas. Et à un moment donné, Jésus va se manifester clairement et ils vont le reconnaître. La Bible dit que leurs yeux vont s'ouvrir. Écoutez bien, suivez-moi bien. Parfois, dans nos incompréhensions, on a besoin de la révélation de Jésus parce que nos raisonnements sont en train d'avoir un mauvais mécanisme. Nos raisonnements sont focus sur ce qui ne doit pas être. Et Jésus doit jaillir de notre compréhension pour montrer ce qu'il est en train de faire. La révélation de Jésus, c'est Jésus qui t'explique ce qui se passe dans ta vie. Et j'aimerais vraiment t'encourager. Ce n'est pas toujours mauvais de chercher une explication. Parfois, oui, Jésus te demande d'aller adorer et d'avancer sans avoir d'explication. Et ses disciples d'Emmaüs avaient tellement de pourquoi, comme certains qui ont tellement de pourquoi. Mais notre Dieu est un Dieu d'amour. Jésus est un Dieu d'amour aussi. Et parfois, on est dans des saisons où on ne comprend rien. Et on a le droit d'exprimer. Et moi, je suis convaincu que Jésus a ouvert les yeux parce que ses disciples étaient aussi honnêtes envers eux-mêmes. Je ne comprends pas ce qui se passe. Nous ne comprenons pas ce qui s'est passé. Pourquoi? On croyait que. Je croyais que j'allais recevoir ce concours. Je croyais que j'allais être pris. Je croyais que j'allais avoir ce poste. Je croyais que j'allais avoir enfin une percée financière. Je croyais que j'allais être guéri. Je croyais. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? La révélation de Jésus-Christ nécessite que l'on sache aussi poser des questions à Jésus. qui a des pourquoi. Alors, vous savez, même Jésus à la croix a dit, Père, non, pas Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même Jésus a posé cette question. Sur ce lieu de calvaire, et j'aimerais t'encourager là où tu es à t'exprimer. Mais j'aimerais mettre un focus, et c'est mon dernier point cet après-midi. Il y a le chemin d'Emmaüs où Jésus ouvre les yeux. Mais Dieu m'a demandé de mettre le focus sur ce deuxième chemin. Il y a très peu de chrétiens qui comprennent cela et qui comprennent que cela est important dans la marche chrétienne. C'est le chemin de Damas. Qui connaît le chemin de Damas? Le chemin de Damas, c'est Paul. Qu'est-ce qui se passe avec Paul? Il voit Jésus. Et qu'est-ce qui se passe quand il voit Jésus? Il devient aveugle. Écoutez-moi bien. Le Dieu qui t'ouvre les yeux. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Le Dieu qui t'ouvre les yeux, c'est le Dieu aussi qui veut te fermer les yeux. Dieu est celui qui veut se révéler dans tes incompréhensions. Mais Dieu est celui qui veut se révéler aussi dans tes fausses convictions. Paul avait des convictions religieuses. Il avait un bon cœur, mais il avait des convictions religieuses. Et quelque chose va se passer. Lorsqu'il a la révélation de Jésus, automatiquement ses yeux se ferment. Et quelqu'un d'autre devra prier pour lui pour que les yeux s'ouvrent. C'est un message spirituel pour nous dire et nous enseigner que Jésus peut venir nous fermer les yeux là où nous avons ouvert les yeux où nous ne devrions pas. Parfois, nous rentrons dans des systèmes de raisonnement qui sont complètement éloignés de ce que Dieu dit, de comment Dieu fonctionne, de qui Dieu est. Est-ce que... C'est terrible. C'est inconfortant de dire et de s'attendre à ce que Dieu nous ferme les yeux. J'ai beaucoup entendu des chrétiens qui disent « Seigneur, ouvre-moi les yeux. » Mais j'aimerais t'encourager à dire « Seigneur, ferme-moi les yeux là où j'ai ouvert les yeux par mes propres moyens. » Qu'est-ce qui s'est passé au jardin d'Éden? Ils ont mangé, qu'est-ce qu'il nous a dit? Les yeux se sont ouverts, mais ne sont pas ouverts de la bonne manière. Vous comprenez? Parfois, on a des yeux ouverts là où Dieu veut nous fermer les yeux. On devient des chrétiens compliqués parce qu'on a ouvert les yeux sur tellement de choses. On a goûté à tellement de choses. On est allé chercher tellement d'informations. On est dans la confusion la plus totale. Aujourd'hui, tu peux choisir de devenir simple. Seigneur, Seigneur, ferme-moi les yeux. Je veux juste regarder Jésus. Il y en a qui ont les yeux ouverts sur les problèmes d'église. Tu ne regardes que des problèmes d'église. Regarde Jésus. Il y en a qui ont des yeux ouverts sur un chrétien qui a fait un mauvais pas. Il y en a qui ont des yeux ouverts sur des serviteurs de Dieu qui ont fait des mauvais pas. Il y en a qui ont des yeux ouverts sur peut-être des parents qui ont fait des mauvais pas. Oh oui, c'était chrétien. Mais ce sont des humains. Et là, tu as des yeux ouverts sur eux, tu as des yeux ouverts sur cette situation, mais tu n'as plus les yeux ouverts sur Jésus-Christ, mort à la croix, crucifié pour tes péchés, ressuscité. Amen. C'est ça le message qui change. C'est ça le message qui délivre et c'est ça le message qui sauve. Si tu as les yeux ouverts sur autre chose que Jésus, c'est les yeux ouverts sur la chose que tu portes qui va conduire ta vie. Donc, tu peux prier à Dieu aujourd'hui. Seigneur, ferme-moi les yeux. Cette situation me hante. Cette personne me hante. C'est plus ça que je veux vivre. Je veux vivre une révélation de Jésus-Christ. Dieu, Jésus a dû fermer les yeux de Paul et les ouvrir plus tard pour le réaligner au cœur de Dieu. Parce que les yeux ouverts sans l'Esprit de Dieu nous sont ouverts bien souvent sur la connaissance et pas sur le cœur. Paul avait des yeux sur la connaissance. Il connaissait la loi. Écoutez-moi, vous avez jamais posé cette question? Comment ça se fait que les docteurs de la loi, et les juifs, ils connaissaient la parole, ils récitaient tout l'Ancien Testament. Comment ça se fait que les docteurs de la loi, ils récitaient les prophéties, tout ça, ils n'ont pas discerné Jésus. Comment ça se fait que Paul était convaincu à ce point de servir Dieu en tuant des chrétiens? On doit être humble. Il ne faut pas que ta conviction devienne ton Dieu. Mais il faut que Jésus devienne et redevienne ton Seigneur. Et on a tellement de convictions, des fausses convictions, des faux raisonnements. Vous comprenez pourquoi Jésus a dit « Personne ne peut me suivre s'il ne renonce à lui-même et se charge de sa croix. » Parce que la renoncer à nous-mêmes, là, c'est aussi dire « Seigneur, rends-moi aveugle. » Comprenez? C'est pas facile. Rends-moi aveugle pour que je voie Jésus. Rends-moi aveugle sur ce qui m'empêche de te voir. Parce qu'il y a des choses qui nous empêchent de le voir. Et donc Jésus est là, ce chemin de Damas, une rencontre extraordinaire. Paul est littéralement transformé, changé. Mais il doit passer par un processus de remise en question. Un processus de, ok, j'ai cru bien faire, mais là, en fait, j'étais complètement à l'opposé. C'est pas ce que Dieu voulait, et c'est pas ce que le Seigneur voulait. Je croyais que c'est sur le bon chemin. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Et j'aimerais vraiment finir par cette question que Jésus a posée. Vous aurez la référence sur un autre chemin, c'est le chemin de Césarée. Et vous, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Si je devais rapidement poser cette question aujourd'hui, qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Je ne parle pas de faire une liste théologique. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Si Jésus est réellement Seigneur, en ne nous précipitant pas, je pose une question très simple. Si Jésus est réellement Seigneur de ta vie, est-ce que tu réagirais pareil que tu réagis aujourd'hui? Si réellement Jésus est amour, est-ce que tu serais là où tu en es aujourd'hui? Si réellement Jésus est prince de paix, est-ce que réellement tu serais dans cet état aujourd'hui? Si réellement Jésus est le chemin, la vérité, la vie, est-ce que tu serais là où tu en es aujourd'hui? Si Jésus est le rocher de mon salut, qu'est-ce qui peut m'empêcher de le louer et de l'adorer? Si réellement Jésus est le bon berger, pourquoi je vis dans la crainte? Si réellement j'ai rencontré ce Jésus, ce Messie, Messia, ce Ouin, ce Christos, pourquoi je suis dans la peur? N'ai-je pas besoin d'une révélation de Jésus-Christ? N'ai-je pas besoin de venir humblement dire, Seigneur, oui, je suis chrétien, oui, je t'ai donné ma vie. Mais ma révélation d'hier ne suffit plus. J'ai besoin d'une nouvelle touche de ta présence. J'ai besoin d'une nouvelle révélation de toi. J'ai besoin d'un changement encore. Là où je suis arrivé, j'ai besoin d'une fraîcheur, je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Qui a besoin, vous avez compris l'image, il faut bien écouter le message pour ceux qui n'écoutent que cette partie du message. Qui a besoin d'être aveugle dans un domaine? OK. Qui est prêt à ce que Dieu vous enlève la vue pour un temps? Réfléchissez à ça. Oh. Oh. Il y a des changements dans l'église. Je vous assure que plusieurs vous perdrez la vue. Dans quelques mois, on l'annoncera, quelques semaines. Mais si on a les yeux fixés sur Jésus, et en fait, on va ramener Jésus de manière plus forte. Il faut que nos yeux soient sur Jésus. En fait, chaque fois que nos yeux sont, et je l'ai déjà dit dans ce lieu, c'est quand les yeux sont trop sur les leaders, quand les yeux sont trop sur autre que Jésus, il y a un problème. L'Église doit fonctionner avec les yeux sur Jésus. Pour certains, si le pasteur n'est pas là, non, il faut que tes yeux soient sur Jésus. Et discerner Jésus, bien sûr. J'entends Fabien qui m'a déjà dit, ouais, il faut rééquilibrer parfois. Bien sûr, Dieu va passer par des leaders, Dieu va passer par des responsables, Dieu va passer par des personnes qu'il met sur ton chemin. On va parler de discipulage, j'en parlerai plus tard. Mais écoutez-moi bien. Une chose qui nous empêche de faire ce que Dieu fait, c'est qu'on regarde les modèles du passé. C'est qu'on aime regarder ce qu'on a regardé avant. Parfois même qui n'a pas fonctionné. Hein. On est là, on aime ça, on est en adoration. Donc quand je pose la question, qui est prêt à ce que Dieu me rende aveugle? Ça dit que quand Paul est devenu aveugle, c'est d'autres personnes qui l'ont conduit. Donc quand tu dis là, Seigneur, rends-moi aveugle, tu es prête à ce que quelqu'un d'autre te prenne la main et tu fasses confiance. OK? Je repose la question. Qui est prêt à ce que Dieu le rende aveugle pour avoir une meilleure révélation de Jésus?